Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
C'est en toute intimité qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Astrid Di Crolla-Lanza, photographe indépendante en collaboration étroite avec de nombreuses maisons d'édition, participant à la réalisation de catalogues d'expositions et réalisant des reportages pour la presse. Avec nous, Frédérique De Gelt, romancière et réalisatrice, auteure de nombreux livres couronnés de succès. La grand-mère de Jade, La vie d'une autre, adaptée au cinéma par Sylvie Testude, ou encore Libertango, un roman qui explorait déjà le thème de la différence. Astrid Di Crolla-Lanza et Frédérique De Gelt nous livrent un message de réconciliation avec la conception que nous avons de la beauté à travers l'handicap. Pourtant, handicap ou pas, nous sommes tous touchés par cet ouvrage poignant qui puise aussi sa source dans les contes de notre enfance, là où se crée notre rapport à l'image entre bien et mal, beau et laid, et qui se construit dès notre plus jeune âge. Frédérique et Astrid sont avec nous aujourd'hui pour parler de leur livre « Être beau ». Bonjour à toutes les deux et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce livre « Être beau », vous levez le tabou de l'handicap à travers 18 portraits sublimes d'adultes et d'enfants handicapés pour montrer que ce n'est pas parce qu'il manque une partie du corps ou qu'une de ses parties dysfonctionne qu'une personne est différente. Et pourtant, le dogme sociétal et les croyances qui nous portent nous rendent aveugles et faussent l'image de la vraie beauté. Alors, on va commencer par toi, Frédérique. Peux-tu nous expliquer comment t'es venue l'idée de ce projet, déjà ?
Alors déjà, moi j'ai découvert le rapport au handicap en ayant un enfant différent. C'est d'abord le contact que j'ai eu et pendant plusieurs années, en étant la mère d'un enfant différent, je me suis aperçue que tout d'un coup, c'est les autres qui étaient handicapés en fait, qu'ils avaient vraiment un problème avec ça.
D'accord.
Et donc du coup, cette interrogation devenant un peu exaspérante, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour que mon fils et d'autres ne vivent pas la double peine, c'est-à-dire non seulement déjà de se débattre avec le manque de par exemple le membre gauche qui dysfonctionne, le fait de mal parler. Bon, par exemple, mon fils, il parle assez mal. Donc, il a un problème de langage, ça veut dire que quand il est forcément con. Ce qui est très très difficile parce que le langage, c'est la base de notre rencontre humaine avec l'autre. Donc, je me retrouve avec des gamins de 4 ans qui me disent « Mais pourquoi il ne parle pas bien ?» alors qu'il pourrait s'adresser à lui et qu'il répondrait et que je pourrais faire un peu la traduction. Mais... Donc, je me suis dit, voilà, l'ignorance de l'autre ayant un handicap, la peur, le fait de ne pas savoir se comporter avec lui.
Bien sûr.
En fait, je l'ai vécu quand j'ai fait ce roman, où j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant, bien que ce soit une fiction, oui, j'ai réalisé en lisant votre roman que moi aussi, je ne sais pas quoi faire. Quand je suis face à quelqu'un qui est en fauteuil, est-ce que je dois me baisser pour être la même hauteur que lui quand je lui parle? Est-ce que je dois faire semblant qu'il n'y ait pas des trucs avec des roulettes? Est-ce que je dois regarder ailleurs? Enfin, voilà. Donc, tout un tas de choses comme ça. Plus des gens... Plus ça allait, plus j'étais avec des gens différents qui me racontaient des trucs, genre le type il va prendre un café, on lui dit bon courage toute la journée alors qu'il est en fauteuil depuis l'enfance, ce qui est quand même un peu pénible. Donc toutes ces choses-là que eux finissent par prendre plutôt avec humour, il faut en parler. Voilà. Je crois que plus on en parlera et plus on dédramatisera le rapport à l'autre différent. En fait.
Et est-ce que la création de ce projet, c'est aussi peut-être une façon de se libérer d'un poids social ?
Qui se libère ?
Celui qui est dérangé, celui qui peut-être qui vit une pression, peut-être au quotidien.
Le problème, c'est que la pression la plus grosse, elle est sur celui qui ne devrait pas la subir.
D'accord.
Quand on est en fauteuil et qu'on doit se demander comment on va faire pour aller à tel endroit ou tel endroit dans la journée? Est-ce que ça va être accessible? Est-ce qu'on va aller voir un pote dans un immeuble où il n'y a pas de possibilité ni d'entrée avec le fauteuil? Des choses comme ça. Plus une société se rend compte des problèmes qu'ont certains membres de cette société, plus elle leur vient en aide et plus évidemment le vivre ensemble est agréable. Mais il faut qu'on en prenne conscience. On peut pas. C'est triste que les gens se rendent compte des choses une fois qu'ils sont touchés.
Bien sûr. Mais c'est même des fois pour des choses toutes bêtes, nous, personnes qui n'avons pas ces handicaps, on se fait mal au petit doigt, on se retourne l'ongle ou n'importe quoi, on se dit « Ah bah tiens, en fait... »
Oui, parce qu'en plus, il y a une souffrance physique.
Oui, bien sûr.
Donc on assume aussi cette souffrance physique. On vit de plus en plus vieux, donc on vit de plus en plus avec un corps qui lâche aussi. Parce qu'on a prolongé la vie, mais pas forcément en bonne santé. Donc du coup, finalement, on ne sait pas si c'est un bienfait pour l'instant.
Alors moi, en tout cas, j'ai beaucoup ri parce que dans une interview, tu dis « J'ai pensé à Star Wars, ils sont tous d'une planète différente, ils ont tous des tronches pas possibles et ça choque personne. » Et tu rajoutes « Et si on était comme ça, on serait énormément tolérants. » Est-ce que ce livre « Être beau », c'est aussi justement un appel à la tolérance, à plus d'empathie pour les gens qui, justement, se posent des questions sur l'attitude peut-être à avoir, s'il y a une attitude à avoir avec des personnes handicapées, en fait, tu vois,
Ça touche à la fois le physique, mais ça peut toucher la mode aussi, ça peut toucher... c'est-à-dire que, par exemple, si on ne savait pas que c'était d'autrefois... Si on voyait tout d'un coup un type avec une collerette et des collants roses et des pantalons qui s'arrêtent aux genoux, etc., on disait mais quel...
J'ai l'image.
On dirait mais c'est quoi ce clown, quoi? Quelle horreur! Bon, on sait, quand on le voit, on se dit tiens, c'est un type qui est déguisé en 16e, 17e, 18e, etc. Mais la vision, elle est immédiatement juge. C'est si demain c'est la mode de sortir avec des vêtements transparents, on verra donc le corps en entier, ça ne choquera personne. Sauf que si quelqu'un revient et s'est absenté pendant 3 ans, il va dire mais c'est qui, c'est dingue. Donc moi ça me frappe beaucoup, ça, ce côté. Il y a une très belle phrase que j'adore qui est un esprit c'est comme un parapluie, ça ne fonctionne qu'ouvert. Et quand on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, tout d'un coup, la tolérance, elle devient totale.
Un esprit et un cœur aussi, finalement. Enfin,
oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, quand on fait connaissance avec l'autre, cette enveloppe disparaît. C'est-à-dire qu'on rencontre l'autre et tout d'un coup, on est en sympathie avec lui, le sens même du mot. Si bien que on voit plus que les autres voient, on voit quelqu'un. Et il y avait une jeune femme qui me racontait que quand sa mère lui a dit « Mais c'était qui le type handicapé ?» Comme elle, ça faisait 4 ans qu'elle vivait à la fac avec lui, elle ne voyait pas de qui sa mère parlait. Parce qu'en fait, elle ne voyait plus qu'il était handicapé.
Oui, elle voyait la personne qu'il était, en fait.
Voilà, exactement, la personne qu'il était. Et c'est d'ailleurs le drame de l'enfance et de l'adolescence. C'est que quelqu'un qui est en situation de handicap, pendant très longtemps, les premières années de sa vie, il n'est que ce qu'il est. Il n'est que cet handicap que l'on voit d'abord. Un jour, il devient sa compétence. C'est ce que nous dit le jeune homme qui est infirme moteur cérébral et chef-op que nous avons photographié. Il dit « Aujourd'hui, je suis chef-op dans le cinéma. » Mais pendant très longtemps, j'étais ce que je trimbalais, ce que les gens voyaient de moi.
Oui, donc ils commencent aussi leur vie finalement avec leur handicap physique ou moteur.
Et là, on parle de ceux qui peuvent travailler.
Et on parle de ceux qui peuvent travailler. Et donc déjà, en fait, ils n'ont pas commencé finalement à apprendre à s'épanouir ou tout ça, que déjà ils arrivent avec ce poids qui leur est mis en pleine face dès leur plus tendre enfance, en fait. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après aussi, de ce que c'est déjà, entre guillemets, quand on n'est pas handicapé... On vit aussi des choses pendant l'enfance qui sont pas très sympas, mais là on va en reparler un petit peu après, voilà, de ces personnes aussi qui vivent des choses pas sympathiques du tout durant leur enfance, quoi.
Absolument.
Donc ça part déjà pas facile. Et Astrid, pendant les séances de shooting, tu t'es retrouvée souvent seule avec les modèles. Et j'ai cru comprendre à travers le livre que c'était aussi des moments assez privilégiés, assez intimes, que tu partageais avec eux. Qu'est-ce que ça a éveillé chez toi, ces séances
Alors ces séances photos ont démultiplié ma vision de l'être humain. Elles ont ouvert des portes, elles ont ouvert une conscience de l'autre beaucoup plus affûtée, beaucoup plus affinée. C'est-à-dire, Frédéric de Gelt parlait justement de la notion de l'apparence, de cette relation qu'on a à l'autre au-delà de l'apparence. C'est ce qui est arrivé avec Jérôme Amand, qui est la personne qui a eu la première greffe totale du visage, où là, la première rencontre au premier abord a été très compliquée, ce qui est tout à fait normal. Et en l'espace de 2 minutes, lorsque nous sommes rentrés en relation, lorsque nous avons échangé, lorsque nos regards se sont croisés, lorsque voilà, la relation s'est installée, tout a disparu. L'apparence n'a plus d'importance, il n'y a plus de ce filtre qui est du corps, qui est une frontière qui empêche d'être réellement avec l'autre. Donc toutes ces séances photos ont été réellement une découverte de l'autre et une découverte de ce dont finalement j'étais capable dans la perception profonde de l'autre. Voilà ce que ça m'a apporté. Et effectivement, quasiment toutes les séances photos se sont faites seules. C'est ce que j'ai toujours recherché.
C'était un choix ?
Oui, a priori, je préfère. Okay. Frédéric était parfois là, c'est arrivé. Il est vrai qu'en général, je préfère être seule avec les personnes pour justement rentrer en relation, pour justement avoir une intimité forte. Et lorsqu'on a une intimité forte, on dépasse justement ce diktat de l'image, et avec le handicap encore plus. Voilà. Donc
oui, il y a quelque chose qui tombe, une barrière qui tombe, une hésitation, quelque chose qui...
Et à la fois, il n'y a aucune différence avec d'autres séances photos. C'est-à-dire qu'on était totalement dans une démarche tout à fait habituelle et je dirais normale d'une prise de vue, avec plein de choses en plus. Mais à la base, tout est pareil. Mais les personnes que j'ai rencontrées m'ont apporté beaucoup plus dans mon cheminement personnel et par rapport au rapport avec l'autre.
Et comment ces personnes qui ont prêté leur image du coup à ton œil artistique, elles ont vécu cette expérience ?
Elles ont vécu ça avec amusement, avec une liberté totale par rapport à leur image. Elles se sont prêtées au jeu d'une manière complètement décomplexée, sans aucune retenue. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'elles ont vu les photos, il n'y a eu aucune censure, ce qui est très rare. Aucune retouche à faire, aucune censure, ce qui est assez exceptionnel. J'ai eu un retour. Soit elles ont retrouvé une image d'elles-mêmes, soit elles ont restauré une image, soit elles se sont juste vues telles qu'elles étaient. Donc le retour a été que positif et simple.
Et simple.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Oui. Finalement, ça a déclenché une espèce d'authenticité, enfin quelque chose de très très fluide,
de naturel.
Naturel.
Naturel. Elles ont accueilli les photos d'une manière enthousiaste et naturelle. Il n'y a eu aucune des personnes n'a demandé une deuxième séance photo. D'accord. Aucune des personnes m'a dit non, écoute, finalement je laisse tomber, je ne me reconnais pas ou je n'assume pas ou non. Tout a été accueilli simplement et avec détermination.
Thank you.
Ce qui m'a beaucoup touchée dans le témoignage de ces modèles, ça a été d'une part donc, la maltraitance hein, que certains ont reçue étant enfants, par les autres enfants, puis des fois qui continuent aussi hein, à l'âge adulte, malheureusement ça ne change pas toujours. Et aussi le fait qu'ils soient obligés pour la plupart de se réorienter aussi professionnellement, parce que soit la société empêche la possibilité de réaliser leurs rêves, parce qu'il leur manque, entre guillemets, quelque chose. Je pense à Koïta, qui ne peut pas courir et qui rêvait en fait d'être joueur professionnel de foot. À Nicolas, qui voulait être navigateur et qui finalement devient photographe sur les courses à voile. Est-ce que se détourner de ce qui nous tenait à cœur, entre guillemets, à cause d'un handicap et du rejet de la société, c'est quand même rageant, et pourtant, j'ai l'impression que certains en font leur lot. Est-ce que c'est une forme de sagesse, de résignation? Comment vous l'avez perçu, en fait?
Je crois qu'on l'a perçu comme il nous le raconte, c'est-à-dire que Nicolas n'est pas affecté de ne pas être devenu navigateur. Tout comme Koïta a des désirs, des choses par rapport à la finance que le foot ne lui aurait jamais apporté. Donc ils ne le vivent pas comme quelque chose qui les a aigris. Ils le vivent comme quelque chose qui les transfigure, métamorphose, leur donne accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Tout est positif. Par exemple, je pense à ce champion olympique qui il nous l'a dit, c'était pas son truc forcément de faire du tir à la carabine. C'était possible. Étant assis en fauteuil, c'était un sport possible. Il appartenait à une famille de sportifs, ils font tous du sport, donc il allait faire un sport. Et il a pris celui-là. Et comme chez lui, on a une culture de l'excellence, eh bien, il est devenu médaille d'or olympique. Voilà. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça permet de montrer que ce qui est l'emblématique culture de la famille arrive à percer quelle que soit la discipline. Et c'est l'extrême adaptabilité des humains. C'est cette espèce de truc qui fait que même quand on a un handicap, on va pouvoir devenir maître d'aïkido, grimpeur en montagne. Par exemple, là, j'étais avec une mère admirable, incroyable. Elle a 8 enfants, elle en a adopté 7 et les 7 sont handicapés. Elle m'expliquait qu'elle avait toujours été quand même dans la confiance, même si ses enfants ont eu beaucoup de problèmes physiques tout au long de leur vie. Et elle me dit, mais tu te rends compte, il y en a un. Alors il voulait faire du vélo, alors il était aveugle, alors il explorait le devant de la maison, là, le chemin devant la maison. Il prenait un vélo, il allait à toute berzingue après avec son vélo aveugle. Et donc, ce garçon, en fait, il était à l'aise dans la confiance que lui faisait sa mère. Parce que quand on a 7 enfants et qu'ils sont tous handicapés et qu'ils ont eu des très lourdes opérations, en gros, on est obligé de faire confiance. On lâche la peur. Et quand on lâche la peur, on fait de grandes choses. Et inversement.
C'est une belle leçon de vie, finalement.
Énorme. 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 Et son fils, d'ailleurs, est allé récemment à Paris passer le week-end avec des potes, tous aveugles. C'est-à-dire que pour nous, c'est inimaginable. Moi, je me dis, j'aurais un fils aveugle. Je suis en Suisse et il me dit, je me barre à Paris passer le week-end, mais je serais morte de trouille, quoi. Parce que, voilà, mais non, en fait.
Astrid, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, il y a aussi un autre exemple dans les personnes que nous avons photographiées, c'est Frédéric Sausset, qui est un exemple criant de dépassement et aussi de réalisation de rêves. Je dirais presque, grâce à cet événement, à cet accident, grâce au handicap, il a osé devenir coureur automobile et il a concouru aux 24 heures du Mans. Il n'aurait jamais certainement fait ça sans cet accident. Donc il y a vraiment, c'est une personne qui est amputée des 4 membres, donc il a réussi à faire rentrer le handicap dans le monde automobile, dans la Formule 1, qui est quand même un monde extrêmement fermé, extrêmement élitiste, et lui s'est battu pour ça, il continue à se battre pour ça. Donc là il y a eu réellement un dépassement grâce à cet événement de vie qui aurait pu rester dans le domaine de l'accident, de l'échec, et qui est devenu,
et ça a été un rebond en fait, ça a été un
total
tremplin, quoi.
Total. Et nous avons rencontré plusieurs exemples, mais celui-là est criant, réellement.
Et je voudrais rajouter que ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a eu cet accident en étant en vacances sur sa chaise longue. Il a chopé un staphylocoque doré, il a failli en mourir, et quand il s'est réveillé, on l'avait amputé des quatre membres. Et après ça, après avoir été sauvé, il décide de risquer sa vie en faisant les 24 heures du Mans et en courant, voilà. Je dois dire que pour sa femme et pour le reste de sa famille et ses deux filles, c'est un drôle de truc quand même d'avoir failli perdre son mari, son père, qui tout d'un coup n'a qu'une idée une fois qu'il n'a plus de membres, c'est de rouler à 300 à l'heure sur un circuit. Et en fait, en même temps, c'est tellement compréhensible. Parce que quand on a vécu ça sans rien faire, bah en fait, le risque zéro, on en a un peu rien à faire.
Oui, mais c'est ça. Est-ce que justement, c'est pas une espèce de dire, bah finalement, j'en suis là, j'ai plus de membres, voilà, il y a plus rien qui me freine. Finalement, je vis à 300 à l'heure, en fait, justement.
Oui, c'est-à-dire que je pense que s'il avait fait ça, il serait mort.
Oui.
De désespoir, ouais.
Oui, ça a été.
Voilà, d'être un légume posé sur un fauteuil et de ne pas pouvoir faire et réaliser le rêve qu'il n'aurait pas réalisé s'il avait gardé ses jambes et ses bras, en fait.
Donc la force de la foi, de la conviction, de la volonté.
On est la seule espèce qui soit comme ça.
Ouais.
On est une espèce qui fabule ses rêves et les fait devenir vrais.
Moi je dirais, ce que j'ai découvert, c'est vraiment la force de l'épreuve qui sublime et qui permet de grandir. Ça, c'est absolument extraordinaire. À partir d'une souffrance, quelle qu'elle soit, il y a réellement une guérison, une élévation de soi qui est très étonnante dans les personnes que nous avons rencontrées.
Alors Frédéric et Astrid, dans ce magnifique ouvrage, je vous parlais donc d'être beau quand on est handicapé. Ça va au-delà de ça, hein, on parle vraiment de la beauté aussi de la personne, bien entendu. On ne parle pas que du handicap. Mais vous parlez aussi des croyances, des instincts primitifs qui fondent notre conception de la beauté, en levant le sujet des inégalités aussi entre hommes et femmes, du dur regard qu'on se porte à soi-même à l'adolescence et celui que les autres nous portent, surtout quand on est une fille. Et puis vous évoquez les contes de fées, qui sont les lieux de la beauté et de la laideur. Finalement, et vous le citez à un moment du livre, c'est comme si être né du sexe féminin, c'était aussi un handicap.
C'est une forme de handicap, oui. Il n'y a qu'à voir ce qu'on nous fait à travers le monde. Il y a encore du boulot.
Oui, ça c'est sûr. Il y a des femmes qui se battent d'ailleurs pour ça, encore.
Oui, mais alors justement, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à partir du moment... En fait, c'est la société qui opprime, qui doit changer.
Oui.
Les femmes se battent, et c'est bien qu'elles le fassent, et c'est bien qu'elles le fassent de plus en plus. Mais tant que les hommes n'auraient pas pris la décision de dire « c'est inadmissible qu'on se conduise comme ça envers des gens qui devraient être nos égaux », voilà, je donne toujours l'exemple de l'esclavage en disant que oui, les esclaves ont fait des révoltes et se sont battus, mais c'est à partir du moment où des Blancs, qui étaient... tenancier des lois, et je le mets comme un tenancier de bordel pour le coup, qui ont changé ces lois en étant persuadés que l'esclavage ne devait plus exister, que les lois ont changé. C'est pas la partie opprimée, même si elle se révolte et qu'elle fait beaucoup de choses et Dieu sait si elle est active, qui arrive à changer les choses. Donc en fait, le chemin que fait dans la société une idée, ça doit être celui-là, et c'est pareil pour le handicap. À partir du moment où on veut considérer les autres comme étant l'égal de soi-même, voire qu'ils ne soient supérieurs, c'est là que ça devient intéressant pour changer les lois.
Il y a peut-être des hommes aussi qui se battent hein, pour cette égalité.
Mais il y en a.
Il y en a.
Mais
ouais.
Il y en a, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup qui ne se battent pas aussi. Hein.
Ouais. Astrid, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ?
Non, nous avons rencontré là récemment, lors d'une conférence, justement, une jeune femme en chaise qui nous disait « Ah mon Dieu, je suis une femme et handicapée. » Il n'y a rien de pire, finalement. Je suis une femme et handicapée. C'est ce qui est encore plus dur, parce que je suis une femme. Donc, on le retrouve, c'est une double peine. Elle me disait « C'est une double peine d'être handicapée et en plus une femme. »
Frédéric, autre chose à rajouter par rapport à cet handicap, par rapport à la féminité en tout cas, placée, mal placée, déplacée par ce monde masculin.
Je dirais qu'il y a tout le problème que connaissent les femmes, problème de l'intégrité du corps se pose aussi à travers le handicap. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans un institut, l'intégrité de son corps, le respect qui lui est accordé, ça se pose pour les vieux, ça se pose... Alors ça va de l'endroit où on veut aller plus vite, où on va leur mélanger le dessert, l'entrée et le milieu parce qu'on leur file à bouffer, puis voilà, ça va être plus vite fait, à des choses plus graves. Donc c'est quand même un problème très très important. C'est un sujet tabou, mais je pense que dans certaines institutions, la façon dont certains... se comporter avec les handicapés, c'est pas top, c'est même dramatique. Alors à côté de ça, et il faut quand même le signaler, il y a des gens qui sont extraordinaires, qui font un boulot extraordinaire et qui s'occupent de personnes qui ont été laissées par leur famille, on peut le dire comme ça. Mais parfois c'est trop lourd. C'est trop lourd pour une famille, mais quand même, ça m'avait vraiment frappé. À un moment, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'enfants trisomiques qui étaient dans des institutions et dont les parents étaient médecins. Comme si c'était l'enfant qu'on ne peut pas réparer, alors on ne peut pas le garder, quoi. Et ça m'avait un peu perturbée.
Alors, rapidement, ma dernière question. Vous dites, je ne sais plus si c'est toi, Frédéric, ou si c'est Astrid, donc je vais mettre vous. Vous dites, le problème n'est pas d'être beau, mais d'être soi en étant autre. Est-ce que finalement, être beau, c'est s'assumer tel que l'on est, sans se laisser atteindre par les autres, ou sans se laisser atteindre par le regard de l'autre, en fait, ou toucher par le regard de l'autre, ou juger plutôt?
Oui, je crois que oui. Ouais. Mais d'ailleurs, on le sait à l'adolescence, ça. Il suffit qu'on soit, par exemple, je cite un exemple féminin, mais il suffit qu'on soit une fille qui a des seins énormes dans les années 70, où c'était la mode de Jane Birkin. Hein. C'est terrifiant, quoi. C'est, oui. Il suffit qu'on ne soit pas avec le bon corps dans le bon moment.
Oui. Question de timing, en fait, quoi.
Question de timing. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'à une époque, j'avais travaillé sur une thématique qui était les seins. Et j'avais découvert que dans les périodes de crise, les femmes ont des gros seins.
D'accord.
Parce que c'est rassurant.
D'accord. Ça rappelle la mère,
oui, alors ça veut dire
mère,
que,
en fait.
Oui, et ça veut dire, mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire qu'avec sa tête, on arrive à conditionner la forme de son corps. Ce qui est encore une perspective très, très intéressante. Et dans les années où l'économie va bien, où c'est plus léger, où c'est plus joyeux, etc. Donc les années 70, c'était corps plus plat, moins de rondeur, étonnant.
Astrid ? Tu réfléchis. Alors je repose ma question. Tu étais dans les seins. Ok, je repose ma question. La question c'était, est-ce que finalement être beau, c'est s'assumer tel que l'on est, sans se laisser atteindre par le jugement
mais
de l'autre.
Mais tout à fait, le plus possible. Mais ça concerne absolument pas que les personnes handicapées. Ça nous concerne tous. Et effectivement.
Et c'est là où ça montre bien qu'on n'a pas de différence finalement.
Il n'y a absolument aucune différence. Et la problématique de l'acceptation de soi, elle passe inévitablement par ce véhicule que nous avons, que nous trimballons partout, qui est ce corps. Et la grande mission, je dirais, est d'arriver à s'assumer tel que l'on est. Et les personnes, les 18 personnes que j'ai rencontrées, s'assument nettement plus que beaucoup plus d'autres personnes que j'ai photographiées ou que j'ai rencontrées ou moi-même. Donc... D'ailleurs. Donc, c'est très. Je trouve que c'est une notion très importante à mettre en avant. C'est que. Voilà, le handicap n'apporte pas plus, en tous les cas, ne m'a pas paru, moi, apporter plus d'inconfort dans l'acceptation de ce qui on est, de ce que l'on est, avec le corps qu'on porte et le corps qu'on trimballe en permanence, avec des personnes handicapées ou des personnes qui ne le sont pas. Voilà, donc effectivement, être beau, c'est être soi pleinement, ce qui n'est pas toujours simple.
C'est l'addiction aux désirs inutiles. Je serai heureux quand je serai riche. Je serai heureuse quand je serai plus mince. Je serai heureux. Et en fait, le problème, c'est que ça nous nous évite de nous demander pourquoi on ne peut pas être heureux tout de suite.
Et oui.
Mais c'est très intéressant parce que ça nous branche sur autre chose tout d'un coup. Mm. C'est qu'on a une vraie raison.
Et oui, puis parce que les choses se passent
parce
aussi maintenant
évident,
avec
je
ce
vais
qu'on
être
a aussi
avec 4 kilos de moins.
Bien sûr.
Mais ça sera sans contexte meilleur.
Oui, et puis quand on aura perdu les 4 kilos, bah ça va être encore autre chose parce que je serai heureuse quand je me
c'est
ouais
ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ah oui.
C'est
donc
ça.
C'est être avec ce qu'on a et avancer avec et vivre
voilà.
avec. Bah, je pense que c'est un joli mot de fin.
Moi, je dirais s'adapter aussi à qui on est, s'adapter avec
oui.
ce qu'on est, s'adapter à ce qu'on est.
C'était le mot de la fin.
C'est l'adaptation.
C'est l'adaptation. Alors, juste pour terminer, ou en tout cas ce qui m'a touchée dans votre livre, Astrid et Frédéric, c'est qu'à travers ces portraits, vous avez su éveiller l'authenticité de l'être à chaque modèle. Et finalement, bah, moi, je trouve que c'est ça, être beau. C'est être avec un grand E, qui l'on est, sans rien avoir à chercher. Merci à toutes les deux, en tout cas.
Merci, merci à vous.
Un magnifique ouvrage, Être beau, c'est aux éditions Stock. C'est une vraie perle d'inspiration et d'empathie. Astrid Dicrola-Lanza et Frédéric De Gelt, encore une fois, grand merci. Le podcast de l'émission est réécoutable sur le site de la radio. C'était Sarah Robert pour Radio FM+.
Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.